Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, nous allons parler de Star Citizen, le nouveau projet de Chris Roberts. Ensuite, nous parlerons toujours d'un jeu spatial, c'est-à-dire le nouveau projet de Notch. Morin, rappelle-moi le titre, s'il te plaît.
OX10.
Voilà, un titre à coucher dehors, n'est-ce pas?
C'est le nom de projet, en tout cas.
On parlera de nos amis Pompétude, n'est-ce pas, avec l'Iron Squid 2. On parlera aussi des jeux PEGI 18 interdits sur le store de Microsoft. On parlera de la technologie de détection de mouvement de Microsoft, du multi de Metro Last Light, des ventes de la 3DS. Et enfin, on parlera de Rayman Legends. Les dates, comme d'habitude, et bien sûr, notre jeu du moment, Dishonored. Comment ça va, mon très cher Mandré Nounet?
Très bien, et toi, mon tyran?
Alors, Londres, ça va? Pas trop un temps de merde?
Ouais, bah surtout que je suis pas à Londres, mais oui, pour le moment, ça va.
Non, mais pour moi, tu sais, hein, c'est le Rosebif, là, il est à Londres, et voilà.
Ouais, je vois le soleil de ma fenêtre, ce qui est... J'en profite pour le moment.
Mytho.
Salut, ATH.
Salut.
Ça va bien, tranquille,
ouais,
la pêche.
Toujours la forme, hein. Un peu fatigué, semaine un peu compliquée, mais on est toujours là.
Bon, vous m'excuserez, très chers auditeurs, si je balbutie par moments, mais pour vous, n'est-ce pas, je n'ai pas dormi de la nuit pour faire un second round de Dishonored, donc voilà.
Attends. Tu veux dire que pour une fois, le podcast et le jeu du moment vont coller à l'actualité? Waouh. On fait des progrès.
Quelle abnégation,
ouais,
tiens.
Je suis trop fou. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le gros projet indépendant du moment, lancé par Chris Roberts. Alors, pour les incultes, Chris Roberts, c'est Monsieur Wing Commander, c'est Monsieur Freelancer, c'est Monsieur Starlancer. Bref, c'est un spécialiste des jeux spatiaux. Son nouveau projet, donc, c'est Star Citizen. Et Star Citizen, c'est un peu le mélange de tous les jeux que je viens de citer, quoi. Bon, je vous avoue que là, il promet beaucoup de choses, hein. Il y a de quoi être méfiant, mine de rien, parce que ni plus ni moins, grosso modo, il est en train de nous promettre un espèce de Eve Online gratuit avec peut-être des microtransactions. Donc, ouais. Il manque pas d'ambition, hein, parce que bon, moi je vous le dis tout de suite, un Eve Online avec un système de combat dynamique à la Wing Commander, moi j'achète tout de suite, hein, parce que bon, Eve Online c'est sympa, mais l'un de mes reproches par rapport à Eve Online, c'est que c'était le fait de devoir, ah ouais, tiens, je clique pour attaquer, voilà, c'est pas top pour les dogfights, on va dire. Donc, il a lancé sa propre levée de fonds, ce monsieur. Il a décidé de pas passer par Kickstarter, hein. Moi, c'est Chris Roberts, je lance mon Kickstarter perso à moi.
C'est assez ballsy comme move, hein, quand même, franchement. Hein.
Je suppose qu'il s'est pas mis un délai de restriction.
Ah, si, si.
Si, si.
Ah, si, il a fait ça?
Si, si.
Si, même pas peur, hein. Il s'est mis un délai de 30 jours. En plus, il demande 2 millions de dollars, hein, rien que ça.
Mm. Ouais.
Donc, mine de rien, il est déjà à 655 000 dollars, hein, alors que la campagne, elle a que quelques jours. Donc bon, c'est bien parti. Donc, je répète, ça s'appelle Star Citizen. Il y aura, a priori, une campagne solo, je précise. Ce sera une campagne solo que vous pourrez jouer offline.
Ouais.
En gros, vous jouerez dans une espèce de légion étrangère de l'espace, n'est-ce pas? Si ça, c'est pas la classe. Mmh. Et, cerise sur le gâteau, cette campagne solo, si vous voulez la jouer en coop avec vos potes, vous pourrez le faire. Et ça, c'est cool.
Et le jeu a l'air magnifique en plus, d'après le prototype.
Franchement, allez voir le trailer, c'est de l'Unreal Engine 3 de haut niveau, et ça envoie du pâté. Hein. Et on précise que les 2 millions de dollars, ça ne financera pas la totalité du développement. Parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, l'Unreal Engine 3, il s'est payé avec des investisseurs privés, il faut le savoir. Mmh. Et donc, ces investisseurs privés rallongeront la monnaie derrière s'il arrive à 2 millions de dollars. C'est une des conditions pour booster le projet, en fait.
Oui, ça doit être le Qatar, les investisseurs privés.
Voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner. Ça a l'air cool. Après, bon, encore une fois, ils promettent beaucoup de choses. Mais bon, en même temps, vu le CV du bonhomme, je pense qu'on peut y faire confiance. Ensuite, on va parler de Notch. Ça se passe toujours dans l'espace et c'est très bizarre.
Alors, rappelons quand même qui est Notch. Notch, c'est le créateur de Minecraft. Évidemment, du coup, les regards se tournent vers son prochain jeu, même si Minecraft est toujours en développement. OX10C, ça s'appelle. Donc, j'imagine que... Enfin, j'espère que c'est son titre de développement et pas son titre final.
A priori,
que...
c'était son titre final. Hein, mais
Mon Dieu.
Ça, je dirais. Hein. En même temps, c'est...
Super.
Je rappelle, on avait déjà parlé ici. Je rappelle, c'est quand même... en gros, c'est un jeu pour geek. Hein, mais voilà. Ouais.
Exactement. Donc là, on a eu un petit peu plus de détails puisque Notch a accordé une interview à PC Gamer et donc il parle un petit peu de ses inspirations et de ce qu'il veut faire avec OX10C. Et donc il parle en termes d'inspiration de ce qu'il veut faire, s'il s'inspire de Firefly, la série. Je sais pas si vous connaissez tous les deux.
Non,
moi, pas du tout.
Non. Ok, bon, c'est une série de science-fiction, j'en parlerai dans un point culture un autre jour. Et en gros, on suit un équipage dans un vaisseau spatial et les choses se passent jamais comme prévu et c'est ce qu'il veut faire en fait dans son idée parce que en gros notre personnage fait partie de l'équipage d'un vaisseau spatial et sans doute son capitaine et donc ça se focalisera donc sur le tout ce qui est spatial mais aussi tout ce qui est atterrissage sur des planètes, exploration de ces nouvelles planètes-là.
Ça fait très élite-like, on va dire.
Exactement. Et donc, du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il veut pas que ça se passe en claquant des doigts, qu'un atterrissage sur une planète se passe sans accroc. Donc, en gros, c'est il y aura, par exemple, des moments où tu devras réparer ton vaisseau, chercher, explorer la planète pour essayer de réparer ton vaisseau. Donc ça a l'air intéressant. Il parle aussi d'une autre inspiration qui est beaucoup plus récente, celle-là. On en a parlé dans le podcast 47, c'est Faster Than Light. Un jeu que t'avais beaucoup aimé, si je me rappelle bien, le tyran.
Tout à fait.
Et bon, par contre, il dit que ça sera pas aussi dur.
Petit joueur.
Et bon, par contre, la réalisation sera en full 3D. Hein. Ça sera pas comme Faster Than Light.
Et full 3D, pas très belle. Hein, à la Minecraft, en fait.
Ouais, full 3D, exactement. Et donc, en termes de jeu, de ce qu'on a vu pour le moment, c'est un jeu en vue subjective, avec donc un espèce de petit flingue qu'on voit. Ça ressemble vite fait à Doom, le premier Doom.
Oh,
un petit peu plus joli quand même, puisque c'est de la vraie 3D, mais pas hyper belle.
Très cubique, faut le préciser.
Très cubique, et il se pose encore la question de son esthétique, s'il va reporter l'esthétique Minecraft dans ce qui est planète ou pas. Pour le moment, c'est en réflexion. Et sinon, il a une autre idée, donc là, on revient sur les geeks, il veut que les joueurs soient capables de réaliser des algorithmes et de les incorporer dans leur vaisseau, parce qu'en gros, l'interface principale dans le vaisseau, ça sera un ordinateur, et dans l'ordinateur, on pourra mettre des algorithmes qui pourront faire bouger ton vaisseau, lui faire des manœuvres qu'il ne fait pas habituellement. Et alors, moi personnellement, ça me fait très peur parce que je suis un énorme noob là-dedans, mais a priori, il veut que ça soit simple et qu'on puisse utiliser ceux des autres. Donc on peut laisser les méga nerds faire notre travail à notre place, ça sera possible.
Honnêtement, tu m'as perdu là.
Ouais, mais c'est pas forcément évident dans son interview, mais ça peut être intéressant. Et pour le moment, il est en train de chercher des mécaniques fun à apporter à son concept, et il espère pouvoir incorporer le multijoueur beaucoup plus tôt que dans Minecraft, puisque dans Minecraft ça avait été incorporé plus tard. Voilà ce qu'on sait un petit peu sur OX10C pour le moment.
Ok. Bon, on passe à Confétude. Alors, je vous avouerai, très chers auditeurs, que ça fait un moment que je ne suis plus StarCraft 2. Si je veux avoir une vie, je ne peux pas jouer à StarCraft 2. C'est pas possible. Donc, est-ce que le casting de cette Iron Squid 2 est à la hauteur?
Ah bah évidemment, déjà l'Iron Squid 1 avait été très très surprenant pour un premier tournoi StarCraft 2 organisé par des Français et complètement, pas autoproduit puisqu'ils ont un producteur derrière eux, mais aller chercher des Coréens, déjà c'est difficile pour des Français. Alors, mais franchement, le niveau du tournoi de l'année dernière, enfin non, même pas de l'année dernière, de la saison dernière, était vraiment vraiment intéressant. Cette année, ça s'annonce encore mieux. Alors je vais pas vous faire la liste des 24 joueurs qu'on a déjà, mais il y a des très très gros noms. Alors pour les petits Français, évidemment, il y a Stefano, c'est notre joueur le plus fort pour ceux qui ne connaîtraient pas, et il y a énormément de Coréens que je vais pas vous dire, puisque bon, si vous connaissez pas, c'est pas la peine que je perde mon temps à vous dire ça.
On croisera les doigts pour que Stefano ne se barre pas en plein milieu du tournoi, n'est-ce pas?
Ouais, ça pourrait être
pas
mal.
Pourquoi il s'est passé un truc l'année dernière où il s'est barré en plein milieu du tournoi?
Oui, il s'est barré.
Disons qu'il a abandonné prématurément.
Oh là là, c'est pas du tout fair play ça.
C'était surtout surprenant. Et donc, à l'heure où on parle, en fait, les phases de qualification qui sont ouvertes sur les différents serveurs de StarCraft 2 sont en cours. Aujourd'hui, c'est les qualifications européennes. Hier, c'était les qualifications coréennes qui étaient relevées à souhait. Et deux noms se sont bien imposés. Et particulièrement un que je connaissais pas du tout et qui a l'air monstrueux. Brown, il s'appelle, et ça, franchement, il envoie du
papier. Un coréen?
Un coréen, ouais. Tout ça, c'est des coréens. Et donc, la semaine prochaine, c'est les qualifications pour les américains. Et on sait pas encore dans quelle salle parisienne ça va se passer la finale. Mais on sait que ça pourra contenir 3000 personnes. Comme le Bataclan, non pas comme le Bataclan, mais comme le Grand Rex de la saison dernière, donc voilà.
Juste une chose, les réservations sont déjà ouvertes?
Non, les réservations seront ouvertes quand on aura la salle, parce que on peut pas réserver un ticket sur quelque chose où on ne sait pas où on va. Donc pour le moment, pas encore, ils sont en train de pousser leur autre tournoi sur League of Legends pour novembre, donc surveillez leur site. Ils ont lancé leur site d'ailleurs il y a pas longtemps, qui s'appelle ogaming.tv. Allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes.
Il y a pas longtemps, ça fait un petit moment quand même, Oran.
Non, le vrai site, pas la web.
Ah oui, le fameux, d'accord, ah oui. Oui. Le fameux site qui a traîné.
Oui, oui.
Bon, allez, c'est tout pour Confétude. On va passer maintenant au coup de gueule de la semaine. Je suis en colère cette semaine. Bon, vous me direz, je suis en colère chaque semaine, mais bon, d'accord. Alors. Bon, il y a un truc qui m'a gonflé cette semaine, c'est Microsoft qui a décidé de faire son Apple. C'est-à-dire que vous savez que le prochain Windows 8, il y aura un store intégré. Parce que bon, les gens, maintenant, ils sont habitués aux tablettes, etc., aux produits Apple. Et les produits Apple, il y a des stores intégrés. Donc, admettons, pourquoi pas. Le truc, c'est que... comme un certain Steve Jobs avait décidé en son temps qu'il voulait pas de porn sur ses plateformes, Microsoft a décidé que les jeux 18+, non. Il y aura pas de jeux 18+, sur le store de Microsoft, sur PC. Alors, bon. Déjà, je vais volontairement évacuer la question du qu'est-ce qui va se passer le jour où Microsoft décide... d'imposer son store Microsoft et que on ne pourra plus installer de programme sans passer par le store. On va me dire je suis paranoïaque, etc. Mais bon, donc je vais volontairement évacuer la question. Quelque chose de beaucoup plus réaliste, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer quand disons que le store va prendre une place non négligeable chez les utilisateurs de Windows et que les développeurs vont se dire mais attends. si je sors un jeu 18+, ça veut dire qu'il ne sera pas vendu sur le store de Microsoft. Est-ce que je ferais pas mieux de m'auto-censurer pour faire un jeu, bon, juste la catégorie en dessous, comme ça je pourrais le sortir sur le store Microsoft. Non mais, je sais pas, je suis sans doute paranoïaque, mais moi bizarrement je sens que ça va se passer comme ça, tu vois. Et voilà, Microsoft a déjà à une certaine époque a tenté de pourrir le jeu PC en imposant sa plateforme Windows Live là, parce qu'il voulait absolument, je sais pas, il voulait qu'on joue comme sur Xbox, un truc totalement absurde, mais bon, pourquoi pas. Et là, ils ont envie de détruire complètement ce qui fait l'intérêt du PC, à savoir que c'est une plateforme ouverte. Point. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule et j'en ai marre. Microsoft là, bon, malheureusement, on peut pas y faire grand chose là, parce qu'on peut pas dire. Il y a même pas d'histoire d'antitrust, etc. Où ils sont tout seuls. Je veux dire, maintenant, les gens même, ils sont habitués à consommer des produits Apple, et Apple, c'est encore pire que ça. Donc bon. Mais là, enfin, moi, je sais pas. Apparemment, ça dérange pas grand monde que qu'on bride la créativité comme ça des gens. Donc. Nous, à Game Info, on avait déjà gueulé quand Nintendo avait refusé que The Binding of Isaac sorte, je sais plus si c'était sur 3DS ou...
Sur 3DS.
C'était sur 3DS. Ouais.
Ben, la même chose pour Microsoft sur PC. Et à mon sens, c'est encore plus grave sur PC parce que le PC, lui, a une vraie culture de l'ouverture.
Bah, j'espère qu'en tout cas, avec ce genre de démarche, j'espère que Windows 8 va bien se ramasser la gueule, que les gens j'espère que vraiment les gens en tout cas les gamers vont le boycotter. En tout cas, il y a eu pas mal de retours des gens de l'industrie du jeu vidéo tels que Notch et des patrons de Bethesda, je crois, qui ont dit que ils n'approuvaient pas du tout Windows 8. Et là, ça va dans ce sens-là quand on apprend des news comme telles que celle-ci, quoi.
Le souci, c'est que t'as d'autres sons de cloche aussi. Moi, j'ai lu une news, par exemple, où c'était le président de Blizzard qui disait qu'il était à fond avec Windows 8, tu vois. Donc, c'est compliqué d'avoir deux visions différentes qui s'affrontent et pas forcément les mêmes la même puissance de voix à chaque fois, quoi.
Bah, si tu veux, venant de Blizzard, ça m'étonne pas, quoi. Je veux dire,
oui, bah évidemment.
Voilà, on peut pas dire que ce qu'ils ont fait avec Diablo 3, c'était forcément très réglo, quoi, n'est-ce pas?
C'est clair.
Et par exemple, et à l'inverse, ça m'étonne pas que Valve soit inquiet, parce que eux, c'est clairement leur business qui est en danger, parce que si vraiment un jour Microsoft décide de fermer sa plateforme, alors je dis pas que ça va arriver.
Ce qui n'est pas exclu.
Je dis pas que ça va arriver obligatoirement. Attention. Hein.
Ouais, mais
je dis que c'est une possibilité non négligeable, quoi. C'est pas des bisounours chez Microsoft, je suis désolé.
Ouais.
Et si ça arrive, Valve, ils seront un peu dans le caca, quoi. Est-ce que je suis désolé, je vois pas quel intérêt Microsoft aurait à valider Steam. Enfin, moi, chez Microsoft, je fais tout pour un concurrent direct d'un de mes services se plante, quoi. Donc, juste comme ça, mais
évidemment.
Je suis peut-être paranoïaque après, mais bon, voilà.
Mais je pense pas que dans un cadre de légal et juridique, quoi, en fait, et je pense pas qu'ils peuvent fermer une plateforme comme ça, quoi.
Oui,
vu que ça serait impossible.
Non mais attends, je suis désolé. Internet Explorer, combien d'années de machin il a fallu pour qu'on arrive à une situation normale? Combien d'années il a fallu de tractations avec la Commission européenne, etc. Ça a pris des années et des années. Moi, je pense que le jeu, il en vaut la chandelle. Hein. Après, bon, on verra. Bon, on passe à autre chose. On va parler toujours de Microsoft et de son nouveau Power Glove, en fait. Hein, on peut appeler ça comme ça. Alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est le Power Glove? Le Power Glove, dans les années 80, c'était un gant que tu mettais sur ta main qui servait à reproduire des mouvements à l'écran, quoi.
Sur la NES.
Microsoft a mis au point une technologie, en fait, où tu te fixes quelque chose au poignet. C'est des infrarouges, en fait, je crois, qui détectent les mouvements de la main, et même très précisément les doigts, etc., et qui vont reproduire ces mouvements à l'écran. Alors, bon, moi, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi, il y a toujours un truc qui me gêne avec ces technologies qui reproduisent les mouvements très précisément. C'est que, justement, quand on reproduit des mouvements réels très précisément à l'écran, en général, ça donne des trucs pourris quand même. Hein. Je veux dire, tout de suite, je sais pas si t'imagines Altaïr en train, je sais pas moi, d'égorger un mec. Moi, je me sens pas, tu vois, de faire un truc qui a de la classe, quoi.
Non, mais de toute façon, il y a rien de mieux qu'un clavier, une souris ou qu'une manette pour jouer à un jeu vidéo, parce que tous ces trucs-là de PS Move, Kinect, tout ça. Je suis pas fan du tout. Pour l'instant, il y a aucune expérience qui m'a prouvé que d'avoir un bon jeu dessus sur ça, quoi. Même le nouveau Zelda sur Wii U, Zelda Skyward Sword que j'ai eu avec le
sur
Wii, excusez-moi, avec le truc là que tu rajoutes en plus, je sais plus quoi, pour avoir des meilleures détections. Franchement, c'est un des Zelda qui m'a fait le plus chier, quoi, parce que t'essaies de taper un ennemi, il faut que ça soit l'ennemi, il faut que ça soit bien précis, alors que ça détecte mal. Voilà, ça me fait chier d'avoir des mouvements précis, en fait. Tu vois, c'est alors que une manette, un clavier. Franchement, moi, je suis bien. On peut rester comme ça encore des années, ça me dérange pas.
Ouais, pour ma part, de manière générale, je ne vois pas comment ces devices, ces motion controllers, en fait. Aussi précis soient-ils, ne peuvent pas être liés en fait avec une expérience casual. Dans la mesure en fait où c'est pas possible à mon avis de jouer un jeu conventionnel comme Dishonored par exemple avec du motion control. Enfin pour moi ça me paraît absurde.
En tout cas pas uniquement du motion control.
Voilà, c'est ça.
En plus du motion, en plus de la manette, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que ça s'alimentera à des trucs gadgets, quoi. Genre, je sais pas moi, taper sur un clavier d'ordinateur virtuel ou enfin des trucs comme ça, quoi.
Ouais. Ben, ce qu'ils présentaient en tout cas avec leur prototype comme application, c'est pour le moment évidemment, ce sont que des tests. Hein, mais t'avais l'impression que c'était très pour une interface, en fait, par exemple. J'imaginais tout à fait Windows 8 avec ce genre de truc-là. Ou sinon, le reste, c'est des mini-jeux, quoi. Mais est-ce qu'on peut faire vraiment beaucoup plus, avoir un vrai jeu qui s'étend sur de nombreuses heures avec une technologie telle que celle-là?
Moi,
je suis pas certain encore. Enfin, je suis pas convaincu.
Pour les jeux tels que... pour les jeux tels qu'on connaît actuellement... En tant que je parle de jeu gamer qui dure sur la durée, etc. Je pense que à la longue ça deviendrait chiant, en fait. Je sais pas, comme t'as dit, ça peut pas perdurer. Alors que franchement, il y a par exemple Kinect, tu vois, par exemple Kinect qui est de chez eux, Microsoft, où tu dois être debout, tu dois mimer ou quand tu cours, tout ça. Imagine, tu dois te faire ça dans un vrai jeu. Par exemple, tu joues à Gears of War avec Kinect. Pour avancer, donc tu cours, tu t'arrêtes, tu te planques. Non, ça peut pas être possible, tu vois.
À la rigueur, s'ils pouvaient faire que les jeux Kinect d'aujourd'hui fonctionnent, pourquoi pas? Mais bon. Est-ce que c'est vraiment la peine de s'arnacher avec tout ça alors qu'on peut jouer à un jeu qui est tout à fait aussi prenant, enfin tout aussi prenant avec une manette? Enfin moi pour le moment je suis encore très pantoufle de ce point de vue là. Alors c'est vrai que j'ai une Wii, mais c'est pas encore à ce niveau là, c'est avec une Wii, on peut s'amuser sans trop s'agiter encore. Donc ça, pour le moment, ça me va encore. Mais je suis pas, ouais, pour le moment, ça me fait vraiment pas rêver.
Pour le moment, la seule chose qui va dire qui m'excite le plus dans tous ces genres de nouvelles technologies, ça va être plus le gamepad de la Wii U, parce que avec une manette traditionnelle un peu sur le côté. Et l'écran tactile qui est au milieu, donc là par exemple comme t'as dit mon chat tien, genre taper des textes sur l'écran, tu sais, t'as un espèce de clavier tactile qui s'apparaît, gérer ton inventaire, etc. Ouais, ça peut être sympa, je pense. Mais y a pas, tu joues par exemple pour tirer, t'as les gâchettes, etc. Je pense que ça c'est tout le genre de truc qui dans l'avenir, s'il devrait avoir une évolution des manettes, ça serait plus vers ce genre de choses lequel j'aimerais m'approcher.
Moralité, ça fera encore un accessoire qui coûtera la peau du cul, qui finira au placard.
Certainement, oui. Ou cassé très
voilà.
Vite.
Voilà. Bon, on passe à la suite et on va parler du multi de Metro Last Light, ou plutôt de son absence, je crois.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est donc le studio A4 Game qui développe actuellement le FPS Metro Last Light. Et la sortie donc est prévue en, au premier trimestre 2013. Ils ont annoncé sur leur blog officiel justement que le début du développement de Metro Last Light, il y avait une équipe qui était dédiée pour le solo et une équipe qui était dédiée pour le multijoueur. Mais après le 3, ils se sont rendus compte que voilà, que mettre un multijoueur, ça leur prendrait trop de temps déjà à faire, et surtout que ils ne voyaient pas l'intérêt d'ajouter ce mode-là à sa sortie, et ont vraiment préféré se concentrer sur une campagne solo pour scotcher le joueur, pour qu'elle soit vraiment intéressante, et pas pour ajouter un multijoueur pour que ça soit écrit sur la jaquette et qu'on dise voilà, nous aussi on fait du multi, nanani. Comme pour le premier, en fait, le premier Metro 2033, il y avait vraiment un travail qui était fait sur l'ambiance. J'espère que pour cette suite, ça sera du même acabit. Et je suis vraiment content que des développeurs, voilà, à un moment de leur développement, ils disent non, stop, vas-y, on enlève ça. De toute façon, il y a personne qui va jouer à notre multi. Ça sert à rien de le mettre.
Ensuite, on va passer aux ventes des jeux 3DS en augmentation de 89%.
Ouh, 89%, ma bonne dame. Eh oui. C'est pas étonnant, hein, y a des gros jeux qui sont sortis l'année dernière et cette année, qui ont permis de vendre la 3DS déjà en termes de hardware et maintenant en termes de software évidemment. Donc ça montre que la 3DS se porte un peu mieux quand même que l'année dernière où on était très très pessimiste. Donc c'est un regain de santé pour la 3DS, alors que la PlayStation Vita, on n'en entend plus trop parler.
Comme quoi, non mais encore une fois, avoir des jeux, ben ça aide.
Exactement. Et je tiens à préciser d'ailleurs que ça serait bien que ça se bouge aussi un petit peu pour cette fin d'année, parce que moi qui suis très 3DS en ce moment pour des raisons que vous connaissez, j'attends d'avoir des jeux qui m'intéressent et qui sortent à la fin de l'année, que je puisse jouer un peu.
T'as qu'à prendre une PS Vita ? Ah non, c'est pire.
Bonne blague.
Bon, allez, on passe à Rayman Legends, repoussant 2013. Non.
Certainement des raisons à ça. Hein.
Quels sont-ils?
Mais on sait tous que c'est parce qu'il y a Mario qui sort. Non, mais voilà. Ils ont pas voulu se prendre Mario en frontal. D'ailleurs, je pense pas que ça soit forcément justifié, hein, parce que, bon, on va pas dire que Rayman défonce Mario, mais je suis pas loin de le penser.
Moi, je le dis, Rayman défonce Mario. Oui, je le dis haut et fort.
Bah, on va attendre de jouer au jeu à TH,
mais en termes d'image, pas tant que ça. C'est ça le truc.
En termes d'image auprès du grand public, parce que Mario, c'est les gens qui connaissent pas le jeu vidéo, tu leur dis, est-ce que dites-moi un jeu vidéo, ils vont te dire Mario. Moi, c'est comme à l'époque, ma grand-mère, elle appelait pas mes consoles. J'avais une PlayStation, elle disait arrête de jouer avec ta Nintendo. Quoi. Tu vois, c'était pas.
C'est toujours le cas. Voilà. D'ailleurs. Arrête de jouer avec ta DS ou ta Game Boy, ouais, c'est ça.
Non, mais même, je veux dire, est-ce que franchement avoir deux jeux plateformes, quoi, c'est pas comme si on avait 36 000 des jeux plateformes qui allaient sortir à la release de la Wii, quoi.
Ouais.
Il y a quand même ça. Est-ce que c'est fondamentalement un problème? Moi, j'en suis pas persuadé parce que déjà des jeux à la release, il y en a. Pas tellement que ça sur Wii, il y en a, c'est même un catalogue qui est plutôt pas trop dégueulasse par rapport à certaines sorties de consoles,
c'est clair.
Mais c'est pas non plus le Nirvana, quoi, faut arrêter, quoi.
Ouais, c'est pas mal quand même, mais c'est vrai que avec l'absence de Rayman Legends, c'est tout de suite un petit peu moins bien.
Pour moi, ça veut dire qu'en tout cas, c'est clair, net et précis, il n'y aura pas d'achat de Wii U à la release, hein, parce que ça devrait être à peu près l'un des seuls jeux qui aurait pu me faire craquer pour acheter une console neuve.
Je suis assez d'accord.
Ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps.
Depuis mai 96.
c'est terminé pour l'actualité. On va passer aux dates. Et on va commencer par un jeu indépendant dont je vous avais parlé ici même. Ça s'appelle PID. Eh oui, un titre très expéditif, n'est-ce pas? Et on a enfin une date. Ça sortira le 31 octobre sur PC et Xbox Live Arcade. Bon, par contre, le PlayStation Store, il faudra attendre plus tard dans l'année. Et je rappelle au passage, donc PID, c'est un jeu de plateforme où vous allez pouvoir créer des faisceaux de lumière qui vont totalement annuler la gravité, en fait. Et franchement, ça, déjà, artistiquement, c'est super beau. La musique, elle déchire sa race. Et en plus, il y a du coop. Donc, que demande le peuple?
Et justement, ça tombe bien quand tu dis, tu parles du PlayStation Store qui va être retardé parce que avec le jeu d'après, donc qui est Gardien de la Terre du Milieu, qui sort le 4 décembre sur le PSN et le 6 en magasin, et ben c'est la version Xbox Live Arcade et Xbox boîte qu'on on a juste une la date de sortie approximative de automne 2012. Donc voilà,
d'accord.
PID en avance sur le PS, sur le Xbox, et Gardien de la Terre du Milieu en avance sur le PSN. Voilà.
Ok. Bon, et bien voilà, c'est terminé. On va passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, bien évidemment, c'est Dishonored.
L'impératrice bien-aimée est morte. Tout le monde pense que tu l'as tuée. Mais nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas?
Avis à toute la garde urbaine. Nous sommes en état d'alerte maximale. Restez vigilants et arrêtez tout suspect.
Bon, alors, est-ce que je peux dire que c'est le jeu de l'année?
Bah, justement, dis-nous.
Bah, si, selon toi, oui, t'as tout à fait le droit de le dire.
Oui, bah, pour moi, sauf vraiment chef-d'œuvre qui sortirait d'ici la fin de l'année. Ouais. Et vu le planning, j'ai comme qui dirait un doute. Il y a des bons jeux, mais je doute qu'il y ait un chef-d'œuvre dans cela. Mmh. Bah, pour moi, c'est carrément le jeu de l'année, quoi. Enfin, alors, pour vous présenter le concept aux incultes qui ne connaîtraient pas ce jeu qui a fait un buzz pas possible sur internet, enfin je veux dire, il a été noté par toute la presse, enfin il a été acclamé par la critique, les joueurs Metacritic pareil, c'est
pour je crois une
qu'on fois. A, on a rarement vu un score aussi haut sur Metacritic. Donc vous incarnez un garde du corps qui s'appelle Corvo, et Corvo est le protecteur de l'impératrice. L'impératrice qui règne sur la cité de Dunwall, qui est très clairement ressemble à une espèce de longue version steampunk ère victorienne, n'est-ce pas? Et donc, ce qui se passe, c'est que ben Corvo, un beau jour, il rentre de mission et sa très chère impératrice, elle se fait assassiner sous ses yeux, et on lui met le meurtre sur le dos, malheureusement. C'est ballot.
Ah, merde.
Et donc, le jeu se déroule 6 mois plus tard, où, visiblement, des opposants du régime en place, qui bien évidemment est à l'origine de l'assassinat de l'impératrice, ont décidé de vous libérer pour que vous les aidiez à renverser ce dictateur corrompu qui a pris la place de l'impératrice. Voilà. Donc, autant vous le dire, le scénario de Dishonored est cousu de fil blanc. C'est limpide. C'est le méchant, ils font aucun mystère dessus, on sait direct qui c'est, dès les premiers instants du jeu, il n'y a aucune surprise particulière, et les seuls éléments un peu mystérieux de l'intrigue, c'est bien simple, il n'y a strictement aucune réponse dessus, on vous laisse votre imagination. Donc bon, là, comme je le dis comme ça, ça a l'air un peu pourri, mais il faut bien voir que même si l'intrigue est classique et qu'on voit les rebondissements venir, c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien mis en scène que finalement ça passe comme une lettre à la poste.
Et il y a aussi par rapport à ça, le traitement des personnages, est-ce que il est bien aussi, parce que c'est les personnages, c'est important aussi dans le... peut-être que l'histoire elle peut paraître plate, mais si les personnages ils ont une forte identité, ça peut permettre de t'attacher au jeu et d'avoir plus de même si le scénario est creux, tu t'intéresses pour savoir ce qui va se passer pour les personnages, quoi.
Ils sont pas si profonds que ça, mais par contre il y a une écriture, des doublages aussi, ça je tiens à le souligner, la version française est de qualité et la version anglaise est excellente. J'ai rarement vu un jeu avec autant d'accent, avec autant de grains dans la voix, autant de jeux d'acteurs. En tout cas sur la version anglaise, la version française est un peu plus plate, on va dire. Même s'il y a de bons acteurs, c'est globalement elle est un peu plus monotone, quoi. Mordren,
tu par rapport à ce scénario, ce qui compte aussi beaucoup, c'est l'ambiance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement de la cité de Dunwall et de dans quel genre de période ça se passe? Il me semble qu'il y a une histoire de peste aussi, ça peut être intéressant d'en parler.
Alors, clairement, donc comme je disais, c'est Londres, hein, c'est une espèce de Londres réimaginé, et c'est Londres à l'ère victorienne, en steampunk, dans une période très 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 sombre, où il y a la peste, où tu sens que très clairement la société est divisée entre les nobles, la noblesse et le reste, quoi, on va dire, en gros, et que les nobles, ils se préoccupent pas tellement du sort du peuple, hein. C'est même plutôt le contraire. Si on pouvait les exterminer, hein, pour qu'ils évitent de nous refiler à la peste, hein, ça serait pas trop mal, hein. Donc vraiment, pour vous donner une idée, c'est une ambiance très sombre, quoi. Pour trouver des personnages, comment dire, sympathiques dans cet univers, il va falloir se lever tôt, hein. Il y en a quelques-uns, c'est justement pour ça que tu les remarques, mais il y a quand même beaucoup de connards, hein. À Dunwall, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de monde qui pense qu'à sa gueule. Et ils pensent d'autant plus qu'à leur gueule que la peste se répand partout, que t'as l'impression que c'est limite l'apocalypse, quoi. T'as des quartiers entiers qui sont désertés. T'as l'impression que t'es vraiment en train de vivre la descente en enfer d'une cité, quoi. Et je le précise, ça va aller de pire en pire au fil de l'aventure, quoi. C'est au début ça va, t'as encore des gens, etc. Et puis plus ça va y aller, plus ça va être glauque, quoi, on va dire.
Et c'est une ville qui est construite par rapport à son gameplay, ou c'est juste une ville qui s'admire plutôt que est-ce qu'on joue avec la ville, en fait?
Les deux, mon capitaine. C'est une ville qui s'admire parce que sur le plan architectural, sur le plan enfin de la recherche, du visuel, c'est un visuel qui est vraiment très unique. Et moi, je pourrais passer des heures à admirer des décors, quoi. C'est juste magnifique.
Ça défonce.
C'est comment dire? C'est une ville qui est organique, en fait. Comment expliquer ça? Il y a un jeu qui ressemble un peu à Dishonored, c'est Deus Ex Human Revolution. Sauf que Deus Ex avait un défaut, c'est que, on met une flèche, tu vois, pour dire attention aux bouches d'aération, gameplay infiltration et tout, c'est par là, gameplay bourrin, c'est par là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors que là, Dishonored, je sais pas comment les mecs ont réussi à se démerder, y a toujours ces possibilités-là, sauf que ça paraît crédible, en fait. c'est logique par rapport à la structure des bâtiments, quoi. Mmh. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça apporte des possibilités d'approche très riches.
D'accord. Et donc, du coup, tu parlais d'une histoire de bourrin, d'infiltration. Ça, c'est quelque chose qui est très poussé dans le jeu. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que bon, on t'en a pas parlé, mais c'est un FPS. Mais est-ce que c'est un FPS classique dans ce sens, dans le sens où tu ne fais que shooter un petit peu partout?
Alors, donc, comme tu fais bien de le souligner, Dishonored, c'est un jeu à la première personne. Et Dishonored, c'est une sorte d'hybride entre Thief, pour le côté infiltration à la première personne, BioShock pour le côté pouvoir, et Deus Ex pour le côté comment dire, il y a un côté évolution du héros, enfin tu peux faire évoluer son équipement, etc. Il n'y a pas de côté RPG précisément, mais tu peux faire évoluer son équipement, quoi. Et franchement, il y a ce qui m'a fasciné dans ce jeu, c'est qu'en fait tu as deux types de gameplay très différents et qui assurent un max, quoi. C'est d'un côté tu as l'infiltration où là tu as une espèce de Thief, sauf que c'est pas un jeu comme Thief, et c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que dans Thief tu joues vraiment un voleur de base qui voilà quoi, il doit se démerder tout seul, alors que là tu joues un super-héros qui fait de l'infiltration, quoi, on va dire. Parce que le mec, comme je disais, il y a des pouvoirs à la BioShock, sauf que contrairement à BioShock où ses pouvoirs servent clairement à bourriner, là ses pouvoirs te servent aussi à t'infiltrer, en fait. Alors c'est très varié, hein. T'as des pouvoirs qui te permettent de te téléporter, t'as un pouvoir qui te permet de posséder une créature ou un être humain, t'as un pouvoir, enfin bref, t'as plein de possibilités offertes au niveau de l'infiltration. Et de l'autre côté, t'as un jeu de super-héros, tu peux bourriner comme un gros taré, où c'est super jouissif parce que les enchaînements de mouvements se font hyper naturellement, où tu prends un pied monstrueux parce que franchement, se téléporter derrière un mec, l'égorger, se re-re-téléporter devant le mec qui était juste en face, qui a à peine le temps de voir que tu chopes par, tu lui chopes le visage, tu l'égorges, il a même pas le temps de réagir, et t'en enchaînes 4 ou 5 comme ça qui ont même pas le temps de, qui voient la mort arriver sur eux. En plus, je vous assure, quand tu fais ça, ils ont fait des expressions du visage, je veux dire, quand tu vois les yeux, mais tu vois la peur des mecs dans leurs yeux, quoi. Et ça, ça te plonge d'autant plus dans l'action, et ça rend l'action d'autant plus jouissif que le gameplay est aux petits oignons, quoi.
En gros, en fait, ils ont pas par exemple, pour comparer à Deus Ex Rayman Revolution, en gros, ils ont pas mis primé sur l'aspect infiltration du jeu. Et le côté bourrin, il est là, mais le jeu, il a pas été conçu pour ça. Par exemple, tu vois, dans Deus Ex, le jeu, il est fait plus pour jouer infiltration, parce que j'ai essayé de le jouer bourrin. Clairement, c'est pas un FPS, quoi. Mais donc dans ce que je suis en train de nous dire, c'est que dans Dishonored, c'est que les deux, que tu choisis l'un ou l'autre, t'auras pas vraiment de frustration au niveau du gameplay, quoi.
Ah, mais très clairement, au niveau infiltration, le jeu est très poussé, quoi. Je veux dire, tu retrouves vraiment des sensations que t'avais plus senties depuis Thief, quoi. Franchement, c'est un vrai jeu d'infiltration où si tu fais pas gaffe, ben tu vas te faire choper, ça va sonner l'alarme, t'as 10 mecs qui vont tomber dessus, si tu vas vraiment en mode infiltration et que t'as pas les pouvoirs pour faire face à des situations extrêmes, bah tu te feras défoncer, quoi.
Et par rapport aussi au niveau, on en avait parlé à l'époque, je me rappelle, le niveau quête secondaire, durée de vie du jeu, c'est comment?
Alors c'est très variable. Moi je le précise, j'ai fini le jeu 2 fois.
À 100%.
Deux fois j'ai fini, voilà. Donc une fois je l'ai fini en mode infiltration, sans tuer personne. Sans me faire opérer une seule fois. Et là, ça m'a pris 25 heures.
Mais t'as fait toutes les... Il y a des quêtes secondaires ou pas?
Enfin, on peut pas parler des quêtes secondaires parce que c'est pas... Comment dire? Disons que dans ce jeu-là, il y a deux protagonistes secondaires qui sont assez importants.
Ouais.
C'est-à-dire Slack Joe qui est un chef délinquant d'un côté et Mamie Chiffon qui est un personnage très haut en couleur, on va dire, qui est une vieille totalement cinglée. Et ces deux-là, en fait, vont coexister pendant toute l'aventure, et c'est eux qui vont te donner ce qu'on appelle les quêtes secondaires. Mais en fait, c'est j'appelle pas ça une quête secondaire, pour moi, ça fait partie de l'histoire, quoi, en fait. Mmh. Tu peux choisir de l'ignorer, mais tu vas perdre un truc sur l'histoire.
Ouais, c'est pour approfondir c'est pour approfondir la narration, quoi, en fait.
Voilà.
Ouais, c'est bien.
Et, j'ai perdu le fil, excusez-moi. On était...
25 heures en morte infiltration sans tuer personne.
Oui. Voilà. Et par contre, en bourrin, j'ai mis 8 heures.
Ah oui, d'accord.
Donc, alors pourquoi? Parce que, tout simplement, quand tu t'infiltres, t'as pas le choix, quoi. Tu repères les rondes des gardes, faut y aller lentement, parce que tu peux pas te permettre d'y aller trop vite non plus, parce que quand tu vas trop vite, tu vas forcément te faire choper à un moment donné par une erreur d'inattention. C'est tout con, c'est... Mmh. Je veux dire, même si t'as des pouvoirs super bourrins qui te permettent de voir à travers les murs, t'as pas des yeux dans le dos non plus, quoi. Et des fois, t'as des PNJ qui arrivent dans ton dos. Si t'as pas bien fait gaffe que le PNJ qui fait sa ronde est à l'autre bout de la map, il arrive, il te voit, quoi. Donc là, t'as l'air d'un con. Et tu recherches ta save parce que t'as décidé de la jouer à infiltration et que tu veux pas te faire choper, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de recharger ta save, tu as fini le jeu en quel niveau de difficulté?
Dans les deux cas, j'ai fini en very hard.
Et alors?
Le jeu est quand même assez facile. Quand je dis que j'ai mis 25 heures, c'est pas spécialement parce que le jeu est dur. C'est parce que s'infiltrer c'est long. Mais c'est pas parce que c'est long que c'est dur, quoi. Après, c'est sûr que si tu vas trop rapide, effectivement, ça sera dur. Parce que quand tu veux faire l'infiltration, tu peux pas te permettre d'y aller comme ça, les mains dans les poches. Oh ben non, j'ai pas repéré ce qui se passait. Non, l'infiltration, forcément, ça marche pas comme ça. Hein, faut prendre le temps. Alors qu'inversement, forcément, quand tu vas à la bourra, là où tu prenais le temps de bien repérer les rondes des gardes et tout, tu vas... voilà quoi, ça passe comme dans du beurre, quoi. Tu fonces. Alors en plus, pour peu que t'aies fait une campagne infiltration avant, pour le coup tu sais exactement par où il faut passer, tu sais là où il y a pas trop de gardes, etc. Alors je précise une chose par contre, c'est que en fonction du nombre de personnes que tu vas tuer, l'ambiance du jeu sera pas du tout la même. C'est-à-dire que en fait, il faut savoir que ce jeu développe la phobie des rats, hein, je le précise, et que les rats mangent les hommes, hein, dans ce jeu, c'est ça, c'est glauque. Et en fait, en tuant des gens, tu nourris un peu les rats, quoi. Tu leur offres des casse-croûtes et les rats se multiplient. Et le truc, c'est que les rats, ça répand la peste. Et donc forcément, le jeu, il devient de plus en plus sombre, quoi. Et ça, je trouve, c'est une idée géniale. C'est pour le coup, alors là, plus tu vas jouer un mec qui a pas trop de scrupules, qu'on va dire, plus les conséquences elles vont se voir. Hein. Parce que je vous le dis, même si le fait de ne tuer personne n'empêche pas d'avoir un jeu assez sombre. Pour le coup, alors là, quand tu te mets à charcuter des mecs et que t'as des rats partout et que la peste se répand, l'ambiance, elle est vachement glauquissime. Par exemple, je prends un exemple de différence que j'ai eu entre mes deux parties. Première partie, à un moment donné, j'arrive dans une espèce de caserne. Il y a trois mecs et il y a un des mecs qui a la peste. Et là, t'as une espèce de scène larmoyante où il fait... allez-y les mecs, tuez-moi, je vais finir par vous contaminer, enfin, vous voyez le topo, quoi. Scène larmoyante, etc. Et je refais ce passage en étant bourrin, j'observe la même scène, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois toujours les trois mêmes types, sauf que là, t'as les deux autres qui sont là, qui fait Non mais qu'est-ce que t'as fait? Hein? Tu nous as caché que t'avais la peste? Hein? Tu veux nous contaminer, c'est ça? Hein? Et là, évidemment, ça dérape, il le bute. Alors qu'il voulait vivre, hein. Par contre, bizarrement, il voulait pas mourir. Et c'est pour vous donner une idée, c'est con, mais par une astuce de game design, ils ont réussi à rendre une ambiance totalement différente en fonction tu la joues peaceful, tu vois, ou tu la joues vraiment bourrin.
Et du coup, il y a un système de choix, mis à part ce côté bourrin et infiltration.
Ben, en fait, les choix, finalement, ça va être comment te débarrasser de tes cibles.
D'accord.
Alors, je précise que, mis à part deux exceptions notables, je précise, donc c'est le bourreau et un personnage à la fin du jeu, il y a toujours une solution pour remplir un objectif sans tuer la cible. Mmh. Je vais pas spoiler parce que je pense que malheureusement ça a été un peu trop spoilé sur internet, cet aspect-là du jeu. Mais à deux exceptions notables où même si tu fous des tranquillisants sur la cible, l'objectif n'est pas rempli et tu ne peux pas remplir l'objectif, et ça c'est très dommage malheureusement. J'ai pas compris parce que jusque là le game design du jeu était parfait, et là il y a ces deux cas inexplicables. Alors peut-être que j'ai raté quelque chose, mais a priori je suis pas le seul à avoir ce souci. J'ai regardé sur internet et ces deux cibles là, il y a pas moyen a priori de les faire dégager sans les tuer.
Bizarre.
Ouais, donc je pense que c'est un truc de fin de développement où ils ont pas intégré un truc. Je pense que c'est ça en fait. Donc mis à part ça, ce qui est fun aussi, c'est que même quand tu veux tuer quelqu'un, il y a plein de manières de tuer quelqu'un quoi. Déjà parce que au niveau de l'écriture, ils t'offrent toujours des possibilités. Genre à un moment donné, tu vois, on te donne des choix, comme dans un livre dont vous êtes le héros, on te dit. Alors, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, ou est-ce que tu fais ça? Déjà, il y a ça. Et ensuite, je veux dire, dans un jeu où t'as masse de pouvoir, il y a toujours moyen d'être créatif, si tu veux, au niveau du meurtre.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Si vous voyez ce que je veux dire.
Mais est-ce que l'IA des ennemis, elle est bonne ou pas? En fait, c'est ça qui me pose la plus grande question.
Moi, je les trouve quand même pas très...
Pas très fait de chute.
C'est pas forcément qu'ils sont pas très fait de chute, mais ils abandonnent très vite, quoi, on va dire. Oh tiens, j'ai entendu un bruit. Enfin, ça me rappelait MGS, tu vois. Dans Metal Gear Solid, moi je me rappelle, les mecs, c'est quoi ce bruit? Au bout de pas très longtemps, c'était sûrement, je sais pas, un oiseau, un rat, ou je sais pas, mais... Enfin, tu vois, c'est exactement ça, quoi. C'est les mecs, ils abandonnent très vite, hein. Pourtant, ils ont vu un cadavre, mais bon, ils vont pas déclencher l'alarme, ni rien. Moi, je sais pas, je vois un cadavre, a priori, la première chose que je fais, je déclenche l'alarme, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et l'alarme, et a priori, elle s'éteint pas jusqu'à la fin de la mission, quoi. Je veux dire, t'as un super dignitaire qui est planqué chez toi. Ok, on n'a pas trouvé le mec, mais il y a quand même un cadavre, quoi.
Bon, c'est pas
quand
grave.
Même, quoi, merde. Il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est que le travail sur l'ambiance sonore est absolument dingue. Rien que ça, tu vois, les bruits sur les matières, quoi. Quand tu marches sur un plancher, quand tu marches sur des carreaux, c'est pas la même chose, quoi. Il y a vraiment un travail à ce niveau-là qui est vraiment super. Et aussi, je veux dire, quand ton perso court, tu vois la différence avec quand t'es en mode infiltration, quoi. Là tu comprends pourquoi les gardes, c'est limite si t'as pas une clochette, quoi. Parce que tu fais un boucan pas possible, quoi. Et ça c'est super bien rendu.
Et la musique? Il y a beaucoup de musique dans le jeu ou c'est juste ambiance sonore à fond?
Moi, je t'avoue que il n'y a pas de musique comme ça qui m'a spécialement marqué. C'est vraiment surtout des ambiances sonores.
D'accord.
Qui m'ont saisi, quoi.
Okay. Alors finalement, le jeu de l'année pour toi?
Le jeu de l'année. Alors, on pourrait y trouver les défauts en allant vraiment chercher la petite bête.
En même temps, quel jeu n'a pas de défauts?
Très précisément. Finalement, son plus gros défaut, à mon sens, c'est qu'il est trop facile. Ça je suis désolé, hein, mais même en very hard, à un moment, je me suis vraiment... Alors certes, ça m'est arrivé de mourir, effectivement, parce que j'avais fait le con. Mais c'est vraiment parce que j'avais fait le con, quoi. Mais franchement, quand tu la joues sérieux, pour peu que t'aies vraiment une maîtrise du truc, pour mourir, faut y aller, quoi.
Et même en bourrin?
Bah, si tu veux, en bourrin, pour peu que t'aies les bons pouvoirs, genre l'espèce de pouvoir qui te permet de balancer des rafales de vent et qui, grosso modo, fait dégager tous les gardes qui sont face à toi, je veux dire, voilà, quoi, c'est tranquille pépère, quoi.
D'accord.
Donc, quoi qu'il en soit, un excellent jeu, une ambiance qui déchire, un scénario qui est bien mené, même si très classique, avec des ficelles un peu grosses, et surtout, un gameplay aux petits oignons, avec des tonnes de possibilités, avec différentes manières d'approche, enfin, c'est vraiment un travail d'orfèvre, et surtout, mention spéciale, contrairement à Deus Ex Human Revolution, il n'y a pas de boss. Enfin si, il y en a un optionnel, qu'ils ont fait là juste pour le fun, t'es même pas obligé de le faire d'ailleurs, et ça c'est bravo quoi, c'est enfin un vrai jeu d'infiltration où on ne t'impose pas un putain de boss quoi. Wouh, bon. Super. Et aussi, un bon point que je voudrais souligner, contrairement à Deus Ex Human Revolution, je salue le choix de prendre une vue et de s'y tenir. Parce que moi, il y a un truc qui m'avait sorti du jeu dans Deus Ex Human Revolution, c'était le fait de switcher en permanence de la troisième à la première personne. Alors, j'ai rien de spécial contre la troisième personne, mais à ce moment-là, faut faire le jeu en troisième personne. Faut pas le faire en première personne. Moi, ça me cassait complètement le trip de switcher entre les deux vues, quoi. Bon, ça plaira pas tout le monde, la première personne. Moi, je trouve que c'est super immersif. Et en plus, tu passes pas tout le temps d'une vue à l'autre.
Ok, donc finalement, en occasion ou en neuf?
Neuf. Achetez-le tout de suite maintenant. C'est le jeu de l'année. Achetez-le. Et ben voilà.
Le message est passé.
C'est terminé pour notre jeu du moment. On va passer au point culture, vite fait, Morane, hein, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire, j'ai cru comprendre. Non. Et ce point culture, c'est...
C'est le point sous-culture, en fait, sur Resident Evil Rétribution.
Oh, le troll.
Donc, c'est un film. C'est un... Bon, remarque, quand on parle de Resident Evil dans les podcasts, généralement, c'est pas toujours très...
Non,
c'est souvent
c'est faux,
très
la semaine dernière, j'en ai dit du bien de Resident Evil 6.
Ah, bon. Faudrait que tu me rembourses le passage, hein, parce que...
Bon, donc en gros, Resident Evil Rétribution, c'est le 5e épisode au cinéma, déjà. Il y en a eu 4 avant Resident Evil, Resident Evil Apocalypse, Extinction et Afterlife. Et il faut croire que ça marche toujours, parce qu'ils arrivent toujours à faire une suite. Donc, bon, très bien. Réalisé par Paul W.S. Anderson, qui est en fait le scénariste, donc le bourreau de la série Resident Evil au cinéma. Qui revient en fait avec la caméra avec cet épisode-là, il aurait peut-être mieux fait de rester caché. Et bon, niveau scénario en fait, bon, ça reprend la suite par rapport à l'épisode 4, qui en fait, si tu veux, dans les Resident Evil au cinéma, il y a une espèce de gradation, c'est-à-dire que le 1 était déjà très moyen, mais à chaque fois en fait ça devient de plus en plus merdique.
Moi je te dis que le premier était mauvais.
oui non mais oui, on est d'accord, mais si tu veux, plus ça va, plus c'est enfin pire c'est quoi. Et donc Resident Evil Retribution ne gâche pas la règle.
Bon, moi je précise, je n'ai vu que le 1, mais franchement ouais, c'est possible de faire encore plus nanardesque que le 1.
Ah oui,
ah d'accord.
Ah oui. Mais je vous dirais pas d'aller voir les autres pour vous éviter de perdre votre santé mentale, mais oui, c'est tout à fait possible. Et donc en fait, bon, ça reprend à la fin de l'épisode 4 et ça continue complètement dans le What the Fuck avec des personnages méchants qui deviennent gentils, des gentils qui deviennent méchants. C'est complètement, en termes de cohérence, c'est le chamboule tout scénaristique maximum. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes dans Resident Evil au cinéma.
Bon, en même temps, j'ai envie de dire Resident Evil en jeu vidéo, c'est pas forcément mieux.
Oui, oui, certainement, mais ça fait tellement gros dans ce film-là. En fait, si tu veux, le personnage principal qui est joué par Mila Jovovich, en gros, c'est une super-héroïne. Quand tu
Père Bonas,
plus ça va, plus elle a des pouvoirs. Et
Parce qu'elle a des pouvoirs maintenant.
Oui, c'est horrible. On est des pouvoirs psychiques et des trucs de malade.
Ça serait comme si c'était Albert Wesker, quoi, en fait.
Oui. Et en gros, si tu veux, elle est capable de d'arrêter un incendie par la force de par la force de l'esprit. Pour
même,
te donner une
même
idée.
Même moi, sûr, elle le fait pas. Ça.
Voilà. Donc non, mais vraiment, c'est un genre Superwoman, quoi. Et donc elle, on lui enlève ses pouvoirs, on lui redonne, on lui enlève ses pouvoirs,
attends,
on lui redonne.
Non, mais c'est sûr que t'étais pas en train de parler d'X-Men, en fait.
Non, non. je te promets. Mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, Resident Evil au cinéma, c'est juste un massacre. c'est incohérent au possible. C'est juste abusé. Et le pire, c'est que quand on se dit on va voir un Resident Evil au cinéma, on se dit on va voir un nanar. Il y aura de l'action, on va juste enlever son cerveau pendant une heure et demie. Mais le pire, c'est que l'action, elle est même pas géniale, quoi. Les effets spéciaux sont datés, les scènes d'action sont franchement pas épiques, et puis en termes de scénario, ben voilà, n'en parlons même pas, quoi. Donc, ce qui fait qu'il manque tellement de choses et que c'est tellement nanar, que ça en devient juste imbuvable.
Mais c'est même pas pour nanar, quoi. Tu veux dire, c'est même pas pour
non,
que
non,
tu
même
vas marrer.
Mais moi personnellement, ça me dérange pas d'aller voir des nanars quand je sais que c'est des nanars et que je sais que je vais m'amuser. Tu vois, genre, ça me dérange pas de voir un DVD avec une pizza devant avec mes potes. Tu vois, à me marrer devant le nanar. Mais là, c'est tellement mauvais que t'en ris même pas, quoi. Moi personnellement, les 15 premières minutes du film, j'étais en train de chialer presque. c'est horrible.
Attends, mais petite question, tu as payé?
Non, j'ai pas payé.
Il est rentré par derrière le cinéma.
C'est ça. mais en gros, si vous êtes gamer et que vous aimez un tant soit peu Resident Evil, n'allez surtout pas au cinéma voir les adaptations. Bon, j'imagine que quand vous avez vu le premier, vous avez arrêté, vous êtes pas allé voir les suivants.
Ouais, parce que je précise, Morbran est allé le voir parce que il a un blog à lui, n'est-ce pas?
Ouais.
J'y suis. Et on l'a invité, n'est-ce pas, VIP.
Exactement.
Voilà. Moi j'appelle ça un cadeau empoisonné, mais
Oui, c'est complètement un cadeau empoisonné. Ce qui fait que je me suis forcé en plus à voir les 4 premiers avant.
Ah, parce que vous avez pas
tu
vu
te
avant.
Rends compte. Non, je les avais pas
vus
avant.
Et...
Ouais, mais je les ai tous. J'ai vu les 5 en 2 jours et j'ai mis 2 semaines à m'en remettre.
Bon, juste vite fait parce que je pense qu'on va vite conclure là.
Ouais. J'ai fini là.
Est-ce qu'il y a un lien scénaristique entre les épisodes? Parce que là, comme ça.
Entre les épisodes.
Bah, vu que tu t'es fait chier à voir les 4, je me dis qu'il doit y avoir un lien quand même pour que.
Oui, le personnage principal qui est naze au possible, c'est le lien entre les épisodes et franchement c'est même pas intéressant d'en parler parce que ça en fait à chaque fois c'est il chamboule à chaque fois tout ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, ce qui fait que ça ne sert à rien, c'est un éternel recommencement et ça va repartir avec un sixième épisode vu comme le cinquième se termine.
Oh non.
Et donc c'est pour ça, je vous encourage, si vous êtes gamer, que vous aimez Resident Evil en jeu vidéo, n'allez surtout pas le voir, parce que plus ce film aura du succès, plus il y aura de chances d'avoir un sixième, et plus j'aurai de chances d'aller le voir et de me faire chier encore.
Mais attends, mais donc... tu sais qu'en parlant de succès, tu sais que c'est un des plus gros succès de Sony Pictures.
Oui, oui, et c'est ça. En fait, si tu veux, ils ne peuvent pas se passer de cette licence-là, parce que le quatrième épisode... a été en 3D et a eu tellement de succès, enfin, a rapporté tellement d'argent qu'ils ont fait un cinquième immédiatement après. Et j'espère que ce cinquième n'aura pas trop de succès parce que il est vraiment temps d'arrêter les frais. Enfin, pour ma santé mentale, en tout cas. Ayez pitié.
Et sur ton blog, tu l'as démonté comme sur le podcast?
Bien sûr.
Bon, bah, il veut dire, ce connard de Mordred, on l'invitera plus.
Ah oui, juste une dernière chose, vu qu'on est entre gamers, le scénariste s'est dit bon, c'est une adaptation de jeu vidéo, alors je vais essayer de mettre ce que je pense être les codes de jeu vidéo dans mon film. Ce qui fait qu'on retrouve ces scènes absurdes où tu vois le personnage principal arriver dans une grange à armes où elle retrouve ses armes, et en gros à chaque fois au début du film, ce qu'il fait c'est entrer dans une salle, buter tous les zombies qui sont dans la salle, pour qu'ensuite la porte s'ouvre. Voilà, ça fait penser à certaines choses.
Il y a des rubans en creux aussi peut-être, non?
Voilà, et en gros, enfin limite, c'est limite si entre les salles on n'a pas un écran de chargement, quoi. Et c'est franchement, c'est genre le mec qui se dit, oh, Ça, je pense que ça va être marrant. Ils vont croire que c'est un clin d'œil au jeu vidéo. Et c'est...
C'est moisi.
C'est moisi. C'est
voilà.
Moisi.
Bon, voilà.
Le mot de la fin, c'est moisi.
On va s'arrêter là, je pense. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures, n'est-ce pas?
Et heureusement que je suis pas allé voir ce film, parce que...
Oui.
Ouais, parce que déjà, Bordel, il s'est déchaîné, alors si en plus il y avait ATH, on y serait pour 3 heures.
N'y allez pas, n'y allez pas.
Allez, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!
Salut!
Salut!